c'est un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Beats to eat, fresh paint pour des journées captivantes. Yeah!
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Le Café Aquin, c'est le café étudiant des sciences humaines, sciences politiques et droit. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030, il est ouvert à toute la communauté de l'UQAM. C'est un projet étudiant entièrement géré par ses membres.
Café filtre et spécialisé, sandwich, viennoiserie, jus, fruits et bien d'autres vous attendent dans une ambiance décontractée et propice au travail scolaire. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030. Le café est aussi disponible pour organiser vos événements. Pour nous contacter, café.aquin@gmail.com ou poste 0291.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Bonjour à tous et bienvenue au 83e épisode de Pop en Stock, le podcast. Votre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de choc.ca, où on décortique, suranalyse, surinterprète, refait, renverse à l'envers, monte sur la tête, monte sur les pieds, mange le chapeau, tous ces objets, événements ou phénomènes de la culture populaire. Pop en Stock est aussi, pour vous le rappeler, un site web qui publie des recherches universitaires, collection d'essais aux éditions Tamar et une émission de radio que vous écoutez présentement. Agréablement, j'espère. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais c'est avec deux chaudières de sang que j'accueille aujourd'hui en studio ma co-animatrice ici au podcast et auteure de Les filles aussi jouent de l'air guitare, Hélène Lorrain, bonjour!
Bonsoir, t'as pas de chaudière de sang, je tiens à te le dire.
C'est une illusion radiophonique. Et une référence à plusieurs trucs en même temps. J'aime ça quand... I love it when a plan comes together. Ainsi que notre collaborateur occasionnel, en fait, qui a proposé cette série d'émissions thématiques, en fait, portrait d'auteur de bande dessinée, Mathieu Lee Goyette. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ah, ça va très bien. Il me semble que ça va un petit bout.
Oui, beaucoup de misère avec le temps et l'espace, tu le sais. Moi, pour moi, on dirait que c'était
important en bande dessinée, le temps et l'espace.
Oui, ben je pense que j'ai comme investi toute ma bande dessinée, le temps et l'espace, puis j'en ai pas gardé pour moi-même. Plutôt ça, mais c'est très intéressant, en fait, parce que le premier qu'on a fait, c'était par rapport à l'artiste. Aïe, aïe, wow, c'est à ce point-là. Là. On a parlé beaucoup de bande dessinée ensemble, c'est pour ça que je me rappelle plus qu'on a parlé de...
Danny O'Neill.
C'était Danny O'Neill, c'est vrai, puis c'était malade. Et quand je t'ai relancé pour comme c'était quoi le deuxième, t'as nommé quelqu'un que je connaissais pas du tout. J'ai fait « Oh, oh, on va te faire confiance! » Et c'est...
J'espère que ça t'est pas déçu.
Non, pas du tout, loin d'eux, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait immensément plaisir de parler de Tadao Tsugi, qui a été... Ben, en fait, c'est un auteur qu'on n'avait pas du tout la chance de connaître jusqu'à la réimpression en 2013. 2015, ben, c'est encore pire. De la part de John and Quarterly, d'une espèce d'anthologie qui s'appelle Trash Market, une très, très belle anthologie, qui est fondamentalement à peu près l'équivalent BDistique d'une édition Criterion. Moi, c'est comme ça que je me suis senti.
Ouais, pas mal, ouais.
En lisant, j'étais comme, hey, bon job.
C'est une très belle édition,
oui. Ouais, ben surtout avoir un dossier critique et ainsi de suite, ce qui nous permet de un peu plus comprendre.
De pouvoir faire l'émission.
Oui, c'est ça. Même, hein? Ben,
parce qu'il y a très peu de choses sur Tadao Tsugi.
Oui.
Quand même, là, quand on se met à fouiller. Là. En français aussi, il n'y a pas grand-chose.
Ah, j'étais en France récemment, puis j'ai essayé de fouiller, puis autant que c'est des grands, grands mangaphiles là-bas, ouais. Il me renvoyait continuellement. Ah, il y a un truc qui a été publié au Canada. Je commence à annoncer. C'est correct. Je vais acheter un Thor. Mais c'est quand même extrêmement intéressant. En fait, c'est une très belle édition. Puis, je ne suis pas 100% d'accord avec ce que tu dis sur le fait que si on n'avait pas le paratexte, on n'aurait pas pu faire une émission. Parce que les... Oui, non, je sais, mais juste au cas où que les gens sont comme... Ben là... Non, la BD est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Puis, c'est un peu la structure que je t'avais proposée. C'est qu'en fait, en le relisant la deuxième fois, ce que j'ai constaté, c'est que oui, c'est bien beau l'ordre chronologique, parce que c'est comme ça qu'on a publié... les strips, en fait, c'est en ordre chronologique, donc on part de décembre 1968 et on termine en avril 1972. Mais il y aurait eu la possibilité de faire un remix de ce livre-là, de faire quelque chose de thématique. Mm-hmm. Puis de vraiment correctement illustrer le parcours individuel et artistique de M. Tadao, disons peut-être de manière plus cohérente. Fait que c'est vraiment intéressant d'avoir, comme le premier, moi je l'aurais mis totalement en dernier. Mm-hmm. C'est vraiment... on peut c'est quand même pas trop utiliser des expressions surannées, là, mais on pourrait brasser ce livre-là comme un paquet de cartes pour faire comme « OK, voyons voir ». Ça fait au final quelque chose qui ressemble pour moi fondamentalement à un processus qui passe de l'enfance en première partie, ensuite vers l'âge adulte et la compréhension de ses enjeux, les obligations de qu'est-ce que c'est l'âge adulte. Puis entre le 2 et le 3, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble un peu à la fuite du réel. Le troisième, c'est vraiment le crépuscule de l'existence. Le quatrième, c'est la salvation par l'art. Fait que c'est, pour le 50 minutes qui restent, à peu près la forme qu'on va prendre, si tu me permets la proposition.
Ben oui, tout à fait.
Si vous me permettez la proposition.
Moi, j'ai une question de base, vraiment.
On t'écoute.
Qui est Tadao Tsuge?
Ben, Tadao Tsuge, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un mangaka qui a jamais été, selon ses dires, il a toujours eu beaucoup de difficultés, en fait, à vendre des mangas. Il n'a jamais vendu beaucoup. Ça n'a jamais été un mangaka qui a vraiment fait fortune, là. On n'est pas en face d'un Shigeru Mizuki ou d'un Osamu Tezuka. C'est un mangaka qui a toujours été un peu dans l'ombre, qui a été considéré bon culte au fil des ans pour un lectorat qui était essentiellement fasciné là, par le manga des années 60, là, le premier boom.
Donc, puis... un lectorat d'initié.
Oui, oui, c'est ça quand même.
Et même là.
Oui, oui, puis
même là.
Son frère, dont le nom m'échappe...
Yoshiharu
Tsuge, si j'ai bien compris, en fait, est un peu plus connu. En tout cas, ses œuvres sont bien plus disponibles que celles de Tadao Tsuge.
Parlant, je ne sais pas si on va revenir sur son frère, mais pour éclaircir Hélène et les auditeurs, moi, en faisant mes recherches, je me retrouvais peut-être à une page sur trois de recherche Internet sur Tadao, je me retrouve à une page qui parlait de son frère.
Ouais.
Qui est... c'est quand même pas peu, là, mais il est comparé et mesuré comme étant le Robert Crumb du Japon.
Mm-hmm. Son frère.
Son frère, oui, exactement. Ça fait que c'est toujours... Et Tadao...
C'est son petit frère.
Ouais.
De 4 ans.
Ah oui, Tadao est le plus vieux.
Non, Tadao Tsuge est le petit frère.
Et le petit frère.
Oui, il est né en 41, son grand frère est né en 37.
OK, c'est ça. Mais, tu sais, il est une note de bas de page sur le parcours de son grand frère. C'est tristement ça la réalité. Que dans l'entrée Wikipédia de Yoshiharu, il y a « et son petit frère fait de la BD aussi
oui. ».
C'est ça.
Exactement.
C'est juste comme « ouh ».
Oui, puis c'est ça, Tadao Tsuge. Bon, jamais travaillé sur des formats très longs. Ça a toujours été comme la majorité des mangaka de l'époque réunis dans des volumes, dans des revues en fait, qui sortaient sur une base mensuelle ou bimensuelle. Puis donc c'est ça, c'était des récits qui faisaient en général soit 30, soit 40 pages. Surtout des 40 pages. Là, dans l'anthologie Trash Market, c'est essentiellement des récits de 40 pages qu'on a. Puis c'est ça, Tsuge, c'est un artiste qui vient vraiment, bon, donc comme je disais, il est né en 41, donc c'est vraiment un artiste de l'après-guerre au Japon, c'est quelque chose qui traverse totalement toute son œuvre. Puis ensuite, sinon, quoi dire sur lui, ça a souvent été quelqu'un en fait qui a dû, pour vivre de son art, continuer à faire des jobs.
Des job-in, hein?
C'est ça, des job-in, vraiment, c'est comme ça qu'il l'explique lui-même. Notamment, il a travaillé pendant une dizaine d'années dans une banque de sang à Tokyo.
Ah ah, deux chaudières!
Ouais,
ah!
C'est ça.
Voilà.
Deux chaudières de sang. Puis c'est, ce qu'on comprend bien, c'est que... C'est essentiellement à travers ce genre de travail-là où il a aussi été concierge dans la banque de sang qui a vraiment... à la base, lui, il vient d'une famille très pauvre, mais c'est essentiellement en faisant ce travail-là qu'il a appris un peu à lire les gens puis à se fasciner pour des portraits individuels. Puis en ce sens-là, c'est une œuvre qui est extrêmement intimiste, ce qui a peut-être expliqué en partie pourquoi ça a pris autant de temps avant que ça soit traduit, dans la mesure où est-ce qu'il s'intéresse à des portraits de gens qui ont des obsessions puis qui sont pris en fait dans un carcan sociétal qui est très très japonais puis qui peut nous paraître assez étranger, dans la mesure où est-ce qu'en lisant Trash Market, je me disais un peu comme quand on lit Yoshihiro Tatsumi, en me disant, si j'avais pas nécessairement le contexte socioculturel de l'époque, l'espèce de lutte très féroce, hein, très bouillante qu'il y a au début des années 60 au Japon entre des idées socialistes puis des idées plus nationalistes, il me semble que j'aurais vraiment perçu ce mangaka-là comme un misanthrope de la pire espèce, intéressé seulement à montrer, à dessiner un peu des déchets de la société, puis des gens qui, à tout coup, sont prêts à chavirer, puis à tuer leurs femmes, tuer des enfants, ou complètement virer sur le top, là. Donc, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à des gens qui sont pas toujours commodes.
Mais c'est ça, mais en même temps, le Japon de l'après-guerre, c'est un de tes grands terrains d'expertise. Tu connais très, très bien ça. Tu es définitivement dans les personnes... quand le sujet est abordé, je suis toujours content que tu sois là. C'est vraiment comme une chance, une pierre d'assise. Mais étant moi-même pas si connaisseur de cette époque-là, ce que j'aime beaucoup dans le portrait, c'est que c'est fait avec tant d'affection. Pis c'est ça, tu sais, tu dis, oui, il y a dans le portrait, cette idée-là de vraiment avoir des déchets, là, des gens, les marginaux de la paire, des pires espèces. Mais il est, pas qu'il les démonise pas qu'il ne les enlaidit pas, mais un peu à la manière de Robert Morin, genre, qui les laisse exister dans toutes leurs imperfections. Pis c'est juste comme, il y a un moment où tu t'embarques, tu sais, l'espèce de petit personnage ambigu qui est continuellement en train de palper les fesses du gars qui a tellement chaud qu'il n'arrête pas d'enlever son chandail pour flexer ses muscles, devient comme quelqu'un de... vient un personnage. Ça, pour moi, ça encore...
C'est que chez Tsugi, en tout cas, faut bien m'enseigner que, en fait, comme tu disais tantôt, les œuvres là, qu'on a avec nous, ce sont les seules qu'on a pu trouver. Donc, elles s'étendent de 68 à 72. Et concrètement, c'est un artiste qui a commencé à travailler en 59-60 et qui travaille encore aujourd'hui. Wow. Donc, c'est sûr que, bon, on va essayer de faire un portrait de l'artiste.
Oui, oui, on a un petit échantillonnage.
C'est un très petit échantillonnage qui est basé essentiellement sur sa période où, selon les spécialistes, il a été en fait le plus... Il était vraiment au sommet de son art, là, c'est ça. Au tournant des années 70, c'est le moment où il y avait le plus de contrats, où justement, il n'y avait plus besoin de travailler dans une banque de sang, puis où il était vraiment, là, t'sais, considéré comme une grande figure du manga d'après-guerre, puis du manga indépendant des années 60. Mais c'est sûr que ça nous donne un très petit aperçu sur son œuvre.
Mm-hmm.
Je crois que ça ne nous empêche pas toutefois d'avancer, puis d'avancer plusieurs choses intéressantes à travers celle-ci, dans la mesure où est-ce que c'est ce qu'on... En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé par rapport à ses autres œuvres, puis à ce que j'ai pu comprendre des planches japonaises que j'ai vues, son œuvre, c'est essentiellement toujours centré autour de la même posture, là, face à sa société. Là. C'est jamais quelqu'un qui s'est mis comme ça... Il s'est pas viré de bord un jour puis a commencé à faire du manga du shonen ou du manga genre grand public avec des personnages avec des super pouvoirs. Il est toujours vraiment resté là dans des thématiques très très près là de ses considérations sociales.
Ouais, c'est ça. La société a changé, mais il a toujours conservé cet aspect portraitiste que je pense que c'est sur le site web même de John Gordon Lee où il y a... En fait, on le décrit comme étant quasi-documentariste, quasi-cinéma-vérité.
Oui, mais en fait, il est l'auteur d'une des premières bandes dessinées reportages au monde. Donc, en 70-71, ça s'appelle Uranishi no Sato, qui se traduit par Uranishi Village. Puis, en fait, c'est une BD qui lui avait été commandée par un magazine pour femmes. Puis, il lui avait demandé, en fait, de faire un portrait de région pour montrer, en fait, la dépeuplade des régions, là, la déruralisation des régions. Puis, donc, lui, il est parti en voyage, puis il a fait des portraits qui ressemblent beaucoup, en fait, là, il y a des planches qui se trouvent sur Internet qui ressemblent beaucoup à ce qu'il fait dans Trash Market. Mais là, il travaille avec un matériau tiré directement du réel, avec des témoignages, des transcriptions, puis un des premiers cas de BD reportage.
Ben oui, c'est extraordinaire, ça.
J'ai une autre question, parce que moi, je connais vraiment pas beaucoup ni l'histoire du Japon, ni l'histoire des mangas, et je suis ici parce que c'est le fun, c'est agréable.
C'est toujours agréable.
mais est-ce que... Et c'est ça, quand même, les mangas contemporains, c'est ça, il y a des super-pouvoirs où on les connaît bien, mais dans l'histoire du manga, quel est le rôle de Tadao Tsugi? Est-ce que c'est le premier à faire ce genre spécifique-là, intimiste, où il s'inscrit dans une lignée, ou... Peut-être que je déroge.
Ben, il y a
Shiro Tatsumi qui, dès les années 60, a fait plusieurs. Ça, c'est édité aussi chez Journal Quarterly, dans des très belles éditions. Puis, c'est encore une fois là, des portraits de société. C'est quelque chose qui était très à la mode, parce qu'au niveau du lectorat, c'était pas très à la mode. Mais disons que dans le manga, davantage d'auteurs des années 60, les gens sont vraiment concentrés à faire justement des portraits. Là. On n'est vraiment pas dans la fresque épique, on est vraiment dans quelque chose d'intimiste, dans des récits, dans le fond, qui sont extrêmement existentialistes dans leur rapport au monde. On essaie de rentrer dans la tête des personnages, puis on essaie de donner au lecteur à vivre la condition, la condition d'un salaryman, la condition d'un pêcheur, la condition d'une prostituée. On est vraiment, en fait, dans cette espèce d'approfondissement psychologique. Là.
Donc, c'est pas le seul, il s'inscrit dans une espèce de scène.
Oui, hein, tout à fait. Je dirais que pour... rebondir sur ce que Jean-Michel disait tantôt par rapport à son traitement là, des personnages qui sont pas toujours des enfants de cœur. Ce qui est intéressant chez Tadao Tsugi, c'est qu'on est toujours dans le pathétique, hein, dans ces personnages, mais il est pas outrancièrement cruel avec eux. Hein. Il nous présente pas des personnages pour les faire souffrir.
Non,
il en fait pas des souffre-douleurs. Il est pas en train de les pointer du doigt en disant c'est à cause de cette vermine-là que la société japonaise va mal. Non, pas du tout. Au contraire. Précisément, mon avis, parce que c'est quelqu'un justement qui vient des bas-fonds de la société japonaise, qui a toujours été très conscient de l'idée que sa famille n'avait pas suffisamment d'argent pour manger, que lui a grandi dans le Japon de l'après-guerre, donc un Japon qui s'est complètement écroulé économiquement. Puis il va d'ailleurs témoigner dans une espèce de témoignage autobiographique à la fin de l'édition chez Journal Quarterly, qui est très beau là-dessus, où est-ce qu'il y a un passage où il explique à quel point en 1956, quand les autorités japonaises et plus largement les médias japonais vont annoncer la fin de l'après-guerre, à quel point il n'a pas senti ça, lui, la fin de l'après-guerre, puis à quel point c'était vraiment une espèce de coup de marketing, un peu une espèce de césure historique un peu arbitraire, en disant ben là les liens de subordination économique qui nous liaient aux vainqueurs sont amenuisés, on a pu négocier une forme d'indépendance économique, puis le pays va se mettre à mieux aller. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de boom économique, mais ce qui est touchant dans son témoignage, c'est à quel point, concrètement, dans le tiers inférieur, mettons, de la population, c'est pas quelque chose qui s'est ressenti. C'est quelque chose qui s'est vu, bon, dans les mesures publiques, en général, dans les mesures sociales, mais c'est ça. Ça n'a pas réglé non plus le problème au Japon, puis de toute façon, c'est un mangaka qui a connu la pauvreté la première moitié de sa carrière, là, jusqu'au début des années 70.
Puis ta question aussi est vraiment pertinente dans l'optique que, au-delà de la bande dessinée aussi, c'est là où l'art était au Japon à ce moment-là. Okay. C'est comme, Mathieu, tu vas pouvoir me le dire directement, mais Ikko de Kurosawa, c'est à peu près à cette époque-là.
Ikiro,
excuse-moi.
C'est 52.
Ah, OK, ouais, même là où Kurosawa est toujours un peu à l'avance, mais c'est l'histoire d'un vieil homme qui explique, en fait, qui voit un peu cette histoire-là se déroulait devant lui. Il y a le cinéma de Shigara aussi. Il y a énormément de réalisateurs à cette époque-là qui se faisaient. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faisait Kurosawa à peu près à cette époque-là?
Début des années 60?
Ouais.
Il y a Jimbo.
OK, ouais.
Ouais, Kurosawa était rendu sur une passe internationale. Je fais des gros films impressionnants. Tout à fait bon. Hein.
Oui, c'est ça. Mais il était plus en train de...
Il était plus en train de faire des petits portraits de la société japonaise. Il était vraiment rendu ailleurs. Mais c'est vraiment intéressant qu'une base d'Ikiru. Curieusement, j'ai pas du tout pensé, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir au Japon comment, dans l'après-guerre, justement, on va passer d'un type de récit qui était, justement, extrêmement épique, qui était... qui, en fait, anéantissait le soi parce qu'il était toujours subordonné à une figure supérieure, ben, notamment l'empereur. Avec des films, avec des jidaigeki, donc des films de samouraï essentiellement, qui faisaient l'apologie de l'honneur, puis de la dévotion, puis toutes ces thématiques-là, avec, comme je dirais, récits emblématiques, les 47 Ronin.
qui est mentionné en intertexte Trash Market.
Oui, c'est ça, qui est très bien fait dans le Trash Market. Puis, ce que je dirais qui est intéressant avec la génération d'après-guerre, c'est à quel point ils se sont beaucoup inspirés, notamment de la littérature russe. Tu parlais d'Ikiru. Ikiru, c'est une adaptation de La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï. Essentiellement la même histoire. Je ne me rappelle plus si c'est exactement un fonctionnaire là, dans une nouvelle, je pense, chez Tolstoï, ou en tout cas, c'est un très court roman.
Je suis sûr qu'il est long, pareil.
Ça m'a vraiment surpris. Il n'est vraiment pas si long que ça. Puis c'est ça. Puis Kurosawa va être extrêmement influencé aussi par Dostoïevski, par L'Idiot. Il va faire une adaptation de L'Idiot qui est très belle. Puis c'est sûr que si j'aurais à déterminer là, une espèce d'inspiration là, littéraire là, pour ce genre d'artiste-là, c'est vraiment la littérature russe, c'est vraiment en particulier l'œuvre de Dostoïevski, L'Idiot, Les carnets du sous-sol, où est-ce que justement on essaie de creuser dans des personnages qui sont pas nécessairement des personnages très beaux.
Mais valides.
Ben oui,
mais valables, c'est ça.
Oui, valables, ça c'est clair. Puis c'est ça, ils vont patauger là-dedans. Puis je l'ai toujours vu parce que c'est quelque chose qui est chez Kurosawa, mais aussi beaucoup chez Naruse, Mizoguchi, puis tous les auteurs de la nouvelle vague japonaise, là, notamment Imamura puis Oshima, dont on pourra reparler peut-être plus tard. C'est quelque chose qui a toujours été lié de très près à une espèce de besoin de représenter en fait le désarroi des Japonais au sortir de la guerre, dans la mesure où est-ce que le Japon, quand il sort de la guerre, ben non seulement il est complètement détruit parce qu'il est littéralement détruit par les bombardements des Américains, par les deux bombes atomiques, il doit se relever de ça, il doit essayer de composer aussi avec ces deux catastrophes nucléaires. Donc il y a énormément d'inconnus, c'est vraiment une espèce de désert de ruines, mais il y a aussi au niveau idéologique, au niveau de l'esprit puis de l'imaginaire, l'espèce de une grande cassure avec le fait que l'empereur ait renoncé à son autorité divine. C'est quand même quelque chose qu'on a de la difficulté à s'imaginer encore aujourd'hui, dans la mesure où est-ce que à l'époque, en 45, quand l'empereur s'adresse à toute la nation, il faut rappeler que il s'adresse à eux sous la pression des Américains, puis il renonce publiquement à la radio, à ses pouvoirs divins. Et puis, petit aparté via Kurosawa, il y a un très beau passage dans l'autobiographie de Kurosawa qui représente bien, en tout cas, qui nous aide bien à comprendre l'espèce d'urgence qu'il y avait à cette époque-là, en 45. Kurosawa raconte que ce matin-là, il s'est rendu au studio de la Toho, puis que tout le monde, lui y compris, se rendait au travail avec leur... le nom japonais m'échappe, là, mais le petit katana qui sert à se faire seppuku.
Ah, oh, ouais.
Ouais.
Tout le monde se rendait au travail.
Ben, tout le monde.
Ben non, beaucoup mais que, gens, ouais, c'est ça.
Puis qu'ils étaient prêts, en fait, à se faire harakiri, à se donner la mort, si jamais l'empereur... parce que dans leur tête, c'était un non-sens que l'empereur renonce à sa divinité. C'est un déshonneur total. Puis l'empereur, selon un paquet de comment dire, ben, ça s'inscrit là, un peu dans l'histoire culturelle japonaise, aurait très bien pu dire ben, nous avons été vaincus, puis plutôt que de se laisser tomber aux mains de l'ennemi, ben, t'sais, la nation se sacrifie.
Mm-hmm. Ok, oui.
Ouais. Puis en tout cas, c'est un très beau passage dans son autobiographie où est-ce que justement il revient puis il décrit comment il se sentait puis à quel point ça a été traumatique puis à quel point c'était un jour particulier puis tout le monde avait vraiment une expression assez lourde puis bon, c'est ça, ça devait être une drôle de journée au bureau.
Mais c'est une très très belle aparté parce que ça, pour moi, ça éclaircit énormément de quoi on parle. Tu sais, c'est du jour au lendemain, Dieu est mort.
Ben, c'est, totalement.
C'est ça, c'est que c'est comme il y a une très très longue période historique et culturelle au Japon où tout le monde regardait vers l'empereur, tout le monde regardait, comme tu le dis, vers l'histoire et vers la grandeur de l'empire. Puis là, t'ouvres la radio un matin, puis t'as Dieu qui fait « Ouais, pas vraiment, après tout, je m'excuse, je suis un peu comme vous autres. » Puis là, du jour au lendemain, tout le monde doit faire OK,
toute la société doit se reconfigurer.
C'est ça, puis c'est
complètement.
Qui sont ces gens-là? Tu sais, je suis en train de regarder son excellence. Mm-hmm. Je suis vraiment en train de regarder le gars à côté de moi maintenant, ou la dame. Ou... Puis là, c'est comme aplanir la société, à dire, ben là, il n'y a plus...
Mais ça se conjugue en plus au fait que le Japon est en ruine.
Mais c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ils arrêtent de regarder un phénomène surnaturel, puis là, tout d'un coup, ben, ils doivent regarder le bâtiment, puis il n'existe plus.
Mm-hmm.
Puis là, ils doivent regarder... Ben, c'est ça, ils doivent commencer à regarder les gens qui marchent dans la rue avec eux autres, parce qu'ils n'ont plus de raison de lever les yeux vers le ciel. Ça, c'est...
Non, mais dans la catégorie des traumatismes nationaux, c'est sûr qu'au Québec, on va souvent parler du traumatisme des référendums, là, mais le Japon...
Je pensais que tu parlais du verglas.
Mais dans le cas du Japon, c'est clair que... Oui, mais... oui, ça traverse toute la production culturelle japonaise de l'après-guerre, là, d'une manière ou d'une autre, là, est traversée par ça.
C'est super bien écrit. En fait, tu l'as très, très bien synthétisé. Je suis impressionné. Good. Mais c'est ça, en même temps, ça fait qu'il y a des gens qui font, ben, qu'est-ce qu'on... C'est quoi le portrait?
Oui, le portrait, ça devient... On peut se retourner, puis du coup, évidemment, comme tu parlais de Dieu est mort, ben... Dans une espèce de posture nietzschéenne, voulu ou pas, ben on se retourne vers l'individu, on se retourne vers soi, puis on essaie de fouiller dans ces bébites-là, essayer de comprendre, c'est ça, la condition humaine sur un tout autre niveau.
Ouais. Puis c'est ça que Tadao Tsugi, ben c'est ça, avec le petit échantillonnage, a essentiellement réussi à faire. T'sais, il pense vraiment, comme je disais, de l'enfance, l'âge adulte, la compréhension des problèmes de l'âge adulte, puis ensuite, ben, qu'est-ce qu'il y a au-delà de nous-mêmes? T'sais, c'est vraiment... J'ai encore à bout de souffle par rapport à ce que tu dis. Je suis comme, wow, yeah!
Ça va. Mais sinon, ben, pour...
leur lire.
Mais ça se lit vite, hein?
Oui, quand même.
Très vite. Hein, ben, de toute façon, le manga, ça se lit toujours très vite. C'est ça qui est pratique, quand même. Ouais. Donc, peut-être pour retourner peut-être plus dans le vif du sujet par rapport à Tsugi.
Oui.
Moi, je me demandais... en fait, j'ai une question à te poser.
Ouais.
Comment t'as trouvé ça, son style un peu naïf?
Moi, ça me cause pas de problème. En fait, j'ai pas le choix de répondre au jeu là, par rapport à ça. C'est que... c'est peu importe comment tu le dessines. Pour moi, c'est peu importe comment tu le dessines, c'est qu'est-ce que tu dessines. Il y a des moments... extrêmement particulier dans la façon comment il a décidé de dessiner des trucs d'une brutalité extrême, mais tout en conservant des lignes très naïves, parce que bon, vous allez voir, si vous l'avez pas lu, là, c'est... On dirait du début de carrière. On dirait vraiment qu'il commence à dessiner à ce moment-là, mais au final, je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin de faire plus que ça. En même temps, le pacing de la bande dessinée est quand même assez particulier, parce que de ce que j'ai cru comprendre, John and Quarterly a... inverser les planches.
Oui, comme ça arrive souvent, pour rétablir un sens de... Ben, pour rétablir plutôt un sens de lecture accidentaire gauche-droite.
C'est, honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Moi, ah ouais? je n'ai rarement lu...
Les Yoshihiro Tatsumi, chez Ryan Quarterly, sont édités par Adrien Tomine, c'est la même chose.
Et Tomine a permis ou accepté...
Ouais, ouais, il y a une espèce de petit paragraphe là, au début là, qui essaie de te faire croire que c'est une bonne solution, là. Mais c'est pas très convaincant.
Il y a deux trucs qui sont vraiment contrariants par rapport à cette édition-là. Un, le manga, on le reçoit beaucoup plus en français qu'en anglais,
ouais.
Pour ma part. Fait que là, à chaque fois que je le réouvrais pour une nouvelle section, je m'attendais de lire en français. C'était comme, ah non, c'est vrai, il est en anglais. L'inversement des planches aussi, c'est assez mélangeant.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que j'ai... Il y a une habitude de lecture. Mm-hmm. Étrangement, que tu es rendu au point où tu te dis toujours, ben OK, quand que je vois ce style de dessin-là, je pars du sens inverse. C'est rentrer, c'est,
oui, oui, tout à fait.
C'est une mécanique. Donc, il m'arrivait à quelques reprises de revenir sur ma lecture pour voir si le sens inverse faisait faisait sens.
Oui, oui, mais il y a des trucs mélangeants parce qu'en plus, ce qu'il faut dire, c'est que Tsugi, c'est quand même un mangaka qui sait être dynamique, mais qui sait surtout être assez bavard. Hein. Il y a beaucoup d'échanges entre ses personnages, c'est beaucoup dans le dialogue. L'essentiel de l'action, en fait, de Trash Market, puis donc des histoires qui sont à l'intérieur de Trash Market, c'est essentiellement des conversations hein. Alors, ou des déplacements piétonniers. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est un manga vraiment vu à hauteur d'ouvrier, là, où on n'est pas... C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans le voyage, on n'est pas du tout dans une espèce d'escapism quelconque.
Non, c'est ça.
On est vraiment terre à terre. Même au niveau, par exemple, justement, des moyens de transport, c'est des piétons, personne n'a de voiture. Quand ils se déplacent, au pire, ils vont utiliser le transport en commun. Mais c'est vraiment, on est dans le petit quotidien, mais on est essentiellement à l'intérieur d'un ou de deux lieux, de seulement la maison ou la maison et le travail, puis l'aller-retour entre la maison et le travail. Mais c'est ça, ça fait beaucoup penser à ce sens-là à l'œuvre de Mikio Naruse qui a passé l'essentiel de sa carrière à filmer des salaryman, puis qui justement essentiellement met en scène la condition de vie à l'intérieur du foyer avec les femmes et les enfants et la condition de vie au travail, puis le va-et-vient de ces deux-là, le resserrement des contraintes sociales et familiales. Puis ça fait beaucoup penser à ce que Naruse a fait.
C'est là que j'allais avec ça, c'est que ça...
Au niveau de la structure, hein, pas au niveau du sujet, là, où là, on est totalement... Naruse avait beaucoup plus, entre guillemets, de classe dans ces sujets-là. À la limite, c'est des drames de chambre, là, avec, à la limite, des histoires de coquillages, là, mais c'était jamais aussi intense que ce qu'on voit chez Tsugi.
Mais c'est ça, moi, je corrobore totalement ce que tu dis. C'est cette idée-là que c'est le dialogue qui est important. C'est ça qui est pour moi le trait d'authentification de ce que je vois. Donc, le visuel ne me dérangeait pas. Surtout quand venait le temps. Là, tu sais, j'ai ouvert par hasard la page 89. T'as une superbe planche. C'était pas une idée de comme ce gars-là dessine. Puis ça, bon, c'est un processus psychique de lecture, là, mais c'est comme ce gars-là ne dessine pas de cette manière-là, faute de talent. Il dessine comme ça parce que c'est ça qui va donner les résultats escomptés.
Mais c'est sûr qu'il y a une contrainte de temps aussi qui doit être assez impressionnante aussi, ouais. Dans la mesure où est-ce que ça, on a malheureusement pas d'informations là-dessus. Je ne sais pas à partir de quelle année Tsugi a commencé à travailler avec des assistants. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'industrie du manga, ben, tout comme dans l'industrie franco-belge aussi, c'est juste qu'on n'en parle jamais, il y avait des assistants, des gens qui faisaient les arrière-plans.
Il l'a été lui-même.
Été assistant de son frère, d'ailleurs, de son fameux grand frère. Donc c'est ça, je ne sais pas à partir de quel moment il commence à travailler avec des assistants, mais si on regarde dans Trash Market, la courte histoire qui m'a le plus frappé, en fait, c'est A Tale of Absolute and Utter Nonsense, qui est une histoire de jeunes révolutionnaires qui décident, parce que en fait, eux, ils ont pas un sou, puis ils croulent sous les ponts, de s'en prendre à la figure, justement, d'autorité par excellence au Japon, qui est encore l'empereur, hein, parce que... Petite parenthèse là, par rapport à ce que j'ai dit tantôt au niveau de la chute de l'empereur puis au fait que l'empereur annonce ses pouvoirs. C'est une manière peut-être assez dramatique de la raconter, l'histoire avec Kurosawa et tout ça, puis les katanas.
Mais c'est...
En même temps, il faut pas... Comment dire? C'est pas aussi simple que ça, hein. Puis c'est évident que c'est pas parce que du jour au lendemain, l'empereur renonce à ses pouvoirs divins qu'aux yeux de la population, il arrête d'être une figure divine. Même encore aujourd'hui, il y a énormément de gens au Japon qui respectent beaucoup l'empereur. C'est encore un symbole d'importance.
Il fait encore autorité.
Oui, ouais. Il fait encore autorité. C'est sûr qu'il fait plus autorité par rapport au pouvoir exécutif, comme il a pu faire autorité il y a une certaine époque. Mais c'est ça, voilà. Bon, l'empereur n'était pas non plus traîné dans la boue. Puis même dans les années 60, faire de la bande dessinée où est-ce qu'on met en scène un groupe de révolutionnaires qui souhaitent s'en prendre à la vie de l'empereur, il y a quelque chose là-dedans d'extrêmement radical.
Non, mm-hmm. Et dans le propos et dans la manière.
Oui, oui, oui. Donc, pour revenir à ce que je voulais lancer au niveau du dessin, en fait, puis à la naïveté du dessin, c'est une espèce de rondeur dans le dessin, une espèce de naïveté qui fait penser, je trouve, par moments à certaines œuvres de Tezuka. Une espèce de maîtrise là, dans la simplicité du dessin que je trouvais très belle. Puis ce qui est intéressant, je trouve, chez Tsugi, c'est à quel point les protagonistes de ces histoires, les personnages principaux, ils sont toujours dessinés comme ça avec des lignes très simples, mais qui les rapprochent aussi parce que, étant donné que les lignes sont très simples, c'est comme s'ils pouvaient plus facilement manipuler leur faciès. plus facilement leur donner une espèce d'allure d'animal.
Il y a
une espèce d'animalité dans leur visage quand ils se choquent, quand ils commencent à pleurer ou à crier, à hurler. Puis dans cette nouvelle-là dont je parle, Tale of Absolute and Utter Nonsense, vers la fin, quand ça devient vraiment hyper sanglant, puis que les forces de l'ordre, les policiers, en fait, sont en train de donner des coups de matraque, puis que Il y a même un type parmi les révolutionnaires qui s'est fait seppuku, mm-hmm. puis il y a un flic qui met le pied dans ses tripes. Là. On est vraiment rendu dans quelque chose d'intense. Là, justement, le dessin devient de plus en plus simple. Il y a une espèce de... par rapport à la violence, là, où justement, il va un peu... ramener son dessin puis les individus qu'il représente un peu à leur état de matière brute, là, un peu comme si c'était... Plus ça devient violent, plus les personnages sont mous. C'est une espèce de...
Ben, ils deviennent grotesques.
Ouais, c'est grotesque, puis c'est comme ça se ramollit, puis on est vraiment, justement, très loin de l'image du salaryman qui est droit, qui a une bonne posture, dans un, tu sais, complet cravate, machin, là, qui est très... qui avec des lignes, justement, qui partage bien les différentes parties de son habit, de mm-hmm. son costume. Dans ce cas-là, c'est ça, on est chez les pauvres, ils sont habillés avec des guenilles, puis c'est boueux, c'est sanglant, puis un rapport au sang qui traverse, là, en tout cas, Trash Market, puis qui, sans faire de la psychologie de comptoir, c'est évident qu'on ne peut pas ne pas penser à son expérience dans une banque de sang pendant 10 ans.
Ouais.
Parce qu'en plus, dans le témoignage autobiographique qu'il nous livre à la fin de l'ouvrage, il est extrêmement précis aussi quant à l'apport que cette expérience professionnelle a eu sur son œuvre.
C'est ça, il nie pas du tout là, que ça a vraiment été un gars... au centre de tous les personnages qui met en scène. Là. Ça, c'est... Il n'y a pas de distance, fondamentalement.
Oui, oui. Puis ce que tu disais tantôt par rapport... tu feuilletais l'ouvrage, puis tu étais tombé justement sur une case hyper détaillée. Puis c'est un des trucs qui me charme le plus, en fait, chez Tadao Tsugi. C'est vraiment la coexistence, en tout cas pour moi, de deux régimes d'expression. Il y a vraiment deux régimes de dessin, je trouve, qui se côtoient dans son œuvre. Puis il y a comme s'il y avait deux vitesses. Là. Il y a une vitesse avec un dessin rapide, un peu mou, qui est vraiment dans la quotidienneté. Puis il y a un second registre qui est dans une forme d'hyperréalisme, dans la mesure où est-ce que il y a énormément de traits, énormément de ratures. On est dans une espèce d'hyperréalisme où est-ce que par moment, où est-ce qu'il représente des trains, par exemple, ou des paysages lointains, ou des silhouettes dans la ville, où je me demandais, mais est-ce qu'il y a du collage là-dedans? Ou est-ce qu'il y a du traçage? Parce que la forme, au niveau de la perspective aussi, a tellement beaucoup d'assurance par rapport à ce qu'il peut faire, qui est, oui, plein d'assurance, mais d'une assurance qui est totalement différente. Puis c'est ça, quand il bascule dans cet autre registre-là, je le trouve fascinant parce qu'en plus, bon, souvent la nature de la case va changer totalement. Il va pas, c'est pas utilisé à toutes les sauces. Là, c'est pour des moments très particuliers. C'est pour des visions souvent qui proviennent des visions oniriques, là, qui proviennent des rêves, ou c'est pour des souvenirs, ou pour représenter des espèces de visions de l'esprit. Qui vont justement un peu comme impacter la psyché des personnages à ce moment-là. Puis il y a un rapport, justement, que je trouve qui est très expressionniste par rapport à ces images-là.
C'est vrai.
Ils sont un peu disséminés. Là. Il y en a quelques-unes. Hein. Ça se compte sur le doigt d'une main à chacune des histoires qu'ils racontent. Mais c'est vraiment, là, ça vient ponctuer l'œuvre avec une force qui est assez incroyable parce que ça fait interagir, justement, en faisant interagir deux niveaux de dessin, il fait interagir deux niveaux de réalité. Puis c'est quelque chose, là, sans toujours faire des comparaisons avec le cinéma, c'est juste que ça me paraît enrichir, en fait, l'œuvre de Tsuke. Fait penser à ce qui se fait à l'époque, notamment chez Masaki Kobayashi, dans son Harakiri, justement, quand le personnage se fait Harakiri, ou quand il y a une espèce de moment dans le film où est-ce que les codes du Bushido commencent à se tordre, puis où le personnage principal a conscience, en fait, des limites du système dans lequel il s'inscrit, ben là, la caméra de Kobayashi va se mettre à vriller, à faire des espèces de plans qui vont aller dans des obliques, l'éclairage devient justement beaucoup plus en contre-obscur, puis La direction photo du film change. Comme on change de registre, on part de quelque chose qui est dans le réalisme, puis on bascule dans quelque chose qui est beaucoup plus expressionniste. Puis il y a beaucoup de ça chez Tsugi.
Ouais, non, c'est super bien dit, en fait, qu'il y a comme une technique pour représenter un registre. Et ensuite, quand on veut, c'est ça, je tombe sur, à la page 86, une scène de cabaret où, pour les gens qui auraient le livre là, sur vous, sinon, bonne chance, où la danseuse n'est qu'un contour blanc, puis il y a comme une figure qui est seulement un contour noir en arrière, mais tu sais, ça dit énormément. C'est une planche qui est extrêmement belle. T'es comme, wow, OK. Ça vient...
Oui, puis après ça, il rebascule dans quelque chose, justement, d'un peu plus naïf puis d'un peu plus casual. Mais c'est assez fascinant à quel point il est capable de... C'est ça, d'alterner entre les deux.
Oui, puis c'est ça, fondamentalement, la réponse à ta question, c'est que tu sais... dès que tu as pour moi, là, dès qu'il te rassure qu'il est capable de faire autrement, ou dès qu'il te rassure qu'il y a le... Je ne veux pas dire le talent, mais l'expérience, disons, d'un travail, d'un dessin travaillé, ben là, immédiatement, ça embarque une espèce de comme, OK, ben c'est qui a choisi de faire ça de cette manière-là. Puis s'il l'a choisi, ben il doit vouloir essayer de dire quelque chose. Puis c'est là où c'est véritablement un recueil qui se lit à multiples, à plusieurs répétitions, sans vraiment faire d'efforts. Mm-hmm. Je me suis pas senti vraiment comme. Pour les fans de l'émission, je vais le relire, puis
C'est le devoir de la semaine.
Ben, c'est ça, non. Puis même que, un bon livre ou un grand livre va faire en sorte que tu vas toujours voir quelque chose de nouveau à chaque fois que tu l'ouvres. Tu mentionnes, avec raison, évidemment, ton affection pour The Tale of... A Tale of Absolute and Utter Nonsense. M'excusez, j'ai toujours la misère avec mon anglais, c'est même ça. Moi, c'est Manhunt, à la deuxième lecture, que j'ai complètement réagi. Là, mais c'est, à la première lecture, c'était vraiment un truc anodin. En fait, je pense que j'ai passé dessus pas mal rapidement. Puis en le relisant, ça a fait « Ah oh non, c'est tout un petit livre, ça, là. Là » C'est, en fait, très rapidement, l'histoire de deux hommes qui sont engagés par un journal pour faire une enquête sur un homme qui aurait disparu. Et... il retrouve cet homme-là mystérieusement, puis il l'interroge. Puis c'est essentiellement ça l'histoire. C'est dans un bureau, il interroge cet homme-là, un errant, qui a décidé du jour au lendemain, suite à la réception de son bonus de travail, de juste quitter. Et eux autres veulent comprendre tous les rouages psychologiques derrière, et toutes les raisons pourquoi ce gars-là disparaîtrait. Puis le gars, il n'y en a pas. C'est fantastique qu'il est toujours comme là, en train de se gratter la tête, puis il est toujours comme « Ouais, ben, je me suis retrouvé dans un village. » Et l'histoire devient, par faute de comparaison, une espèce de moment de True Detective assez fucké, où il finit par loger dans une maison abandonnée, dans un village, dans le nord. Puis bon, ce type d'histoire-là permet beaucoup d'errance, comme tu dis. Il y a énormément de beaux dessins dans ce fascicule-là. Mais le gars, de qu'est-ce qu'on comprend, par la carte à un certain point, devient un habitant errant de cette ville-là, est reconnu parce qu'il se promène avec un masque de singe, et que tout le monde dans le village est comme « Ouais, c'est le dude avec le masque de singe, c'est ça. » Et le gars n'a absolument aucune raison, ni aucun raisonnement derrière ce comportement-là. Éventuellement, il enlève le masque, retourne à la ville, et c'est là où les journalistes le trouvent et l'interrogent. Puis c'est ça. Et la raison la plus pertinente de son départ, c'est « je voulais voir un train ». Je voulais voir je voulais pas voir un train. En général, il voulait voir le engine en particulier. Ouais. Puis c'est ça qui l'a dévié dans son parcours initial. Il s'en allait chez eux, par exemple. Il a fait « je veux voir un train ». Puis la dérive.
Mais ce moment-là où il justement se met à dériver, espèce de qui est même pas un point névralgique parce que c'est tellement flou dans le récit que c'est pas, il y a pas de suspense vraiment là-dedans. Là. On est dans un récit détective comme il y en avait beaucoup à l'époque là, dans le manga des années 60, mais c'est jusque là c'est traité avec une maîtrise assez folle. Puis on discutait du fait que à ce moment-là au Japon les artistes vont essayer justement parce que Dieu est mort pour le dire vite, de creuser l'intérieur de la psyché des gens. Puis là c'est totalement ça avec comme dispositif, les deux enquêteurs qui posent des questions puis qui essaient de comprendre, on essaie d'aller au fond de sa tête, puis c'est très opaque.
Ouais, ben même pour le gars qui l'a fait.
Oui.
C'est ça qui est extraordinaire parce que ça s'appelle Manhunt, fait que là, t'as toute cette idée-là des
fugitifs.
Ouais, mais non. C'est juste comme le non-agir par excellence.
Oui, tout à fait. Puis ça s'inscrit là, pour les gens qui seraient fascinés ou qui voudraient en voir plus là-dessus. Il y a beaucoup d'œuvres là qui traitent de ça. C'est un phénomène au Japon, des Vanishing People. Jōhatsu Ningen, qui est un vrai problème de société au Japon.
C'est juste des gens
qui
décrochent
du jour au lendemain, qui décident de se fondre dans la masse ou bah, de d'errer, puis finalement, souvent, ça finit par finir en suicide. Mais c'est, oui, c'est un vrai problème au Japon. C'est un peu des clichés d'usage, mais c'est vraiment comme ça. C'est une société qui est hyper réglementée, qui est hyper codifiée, qui est hyper contraignante, qui est basée sur différents codes, pas seulement des codes familiaux, pas seulement les codes d'honneur qu'on peut s'imaginer, mais des codes professionnels qui sont très importants. Puis, si on voulait parler un peu rapidement, moi, je dirais qu'il n'y a pas un individu qui est fait pour vivre dans un système aussi contraignant que ça.
C'est rigide, là.
C'est très rigide, puis c'est ça. Une fois de temps en temps, au Japon, il y a quelqu'un qui pète une coche, puis ici, il y a des gens qui commettent des tueries. Ben, au Japon, il y a très, très peu de meurtres à chaque année. Les gens font juste disparaître.
Oui, c'est extraordinaire. C'est pas un pétage de coche psychotique où tu mets des bombes. Non, c'est juste tu finis par être comme du bois mort sur une rivière.
C'est
indescriptible et fantastique en même temps. C'est juste une espèce de... Ouais, je suis à court de mots. Moi, ça m'a fait vraiment penser
à... C'est une distinction que faisait... je m'en rappelle plus si c'est un des personnages un des personnages de Paul Schrader dans un de ses films à lui, ou si c'est Paul Schrader en entrevue. Mais en tout cas, c'est Paul Schrader qui a dit ça d'une manière ou d'une autre. Là.
Ouais.
Qui faisait justement la distinction en disant que quand quelqu'un, pète une coche au Japon, ben il s'enfermait chez lui, puis il se suicidait. Mm-hmm. Tandis qu'aux États-Unis, quand quelqu'un pète une coche, ben il sort de chez lui, puis il tue tout le monde avant de s'enterrer.
Il va en prendre une coupe avant lui, c'est ça. Paul Schrader, c'est le scénariste de
Taxi Driver. Puis de Yakuza.
C'est ça, OK, ouais.
Donc, ben, c'est probablement, ouais.
Dans des Yakuza qui auraient...
Ouais.
Mais c'est vrai, puis c'est... Ouais, c'est une très, très belle...
Puis c'est ça, il y a des... pour revenir au Vanishing People, c'est ça, il y a des gens qui disparaissent. C'est quelque chose qui est très bien mis en scène dans Vanishing Man de Sho Imamura.
Ah, que j'ai pas vu.
Puis c'est ça, c'est vraiment un problème qu'il y avait au Japon, puis il y a une espèce de... Je trouve que ce que je trouve de très beau, justement, dans cette courte histoire de Tsugi, c'est à quel point il refuse de mettre le doigt sur un élément déclencheur, il refuse de mettre le doigt sur une raison ou sur quelque chose de précis, tu sais. Puis ça donne au récit une espèce de... une très belle universalité, en fait.
Et à l'inverse, avec Song of... pas avec Song of Showa, avec Up to the Hilltop, c'est To the Hilltop? Up on the Hilltop, Vincent Van Gogh, je trouve qu'il fait qui est pour moi, en fait, c'est le plus jeune strip qu'on a, la plus jeune histoire qu'on a dans l'anthologie, mais qui pour moi est tellement inspirée et universelle, en fait, que je la mettrai à la fin, mais bon, ça, c'est mon truc.
Ça a été moins déprimant si ça avait fini là-dessus.
Oui, ça c'est certain. Ouais. Mais en même temps, ça a été très inspirant parce que il contredit, mais il défie la fantasmagorie populaire de Vincent Van Gogh. Je trouve ça très fort venant venant de l'Asie, qui met en scène, très simplement, l'histoire, c'est juste un jeune artiste qui prend, j'imagine, un peu la place de Tadao Tsugi, qui parle de sa condition d'artiste, de ses sentiments, ses émotions, et de ses contradictions d'être artiste, mais tout ça en lisant la biographie de Vincent Van Gogh et en parlant de façon beaucoup plus modérée et beaucoup plus, comme tu disais, sans vouloir participer à l'hypothèse générale de Vincent Van Gogh est un fou d'attitude. Lui, il y a comme un espèce de comme non, on est dans un spectre, on est dans une aquarelle de l'histoire et on va pas juste faire peine d'amour, cop-oreille, ami, les grosses lignes, tu sais. Non, mais c'est ça. Ouais. J'ai trouvé ça très fort, puis c'est une des grandes raisons pourquoi je voulais que ça finisse là-dessus, parce qu'il ouvre sur l'art en disant, vous pouvez faire bullet points, puis dire, Van Gogh, c'est un gars qui a peint sa chambre. Après ça, il s'est peint une couple de fois, il a peint un pot de fleurs, il a viré fou, il s'est coupé l'oreille, il est en amour, on sait pas, il avait peur. Tire une balle en tête, that's it. Lui, en 40 pages, place toutes les grilles dans l'histoire.
Ben, ce qui est vraiment fascinant, je trouve, dans cette histoire-là, ben, comme tu dis, c'est son rapport à l'histoire, c'est son rapport au portrait. Hein, parce que aussi Van Gogh, c'est un portraitiste de lui-même. Puis lui, ben, il fait des portraits de Van Gogh. Donc, il fait des autoportraits de Van Gogh. Puis pour lui, c'est sa manière de s'exprimer. Il le dit à un moment donné que c'est sa manière de faire sortir ce qu'il y a en dedans de lui. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, évidemment, vu qu'il est toujours un peu dans une espèce de relation là, dialogique avec Van Gogh, avec une espèce de Van Gogh imaginaire, bien, il s'identifie aussi à Van Gogh, tout comme l'artiste s'identifie à ce personnage d'artiste. Donc, tout ça se rejoint. Puis, il y a quelque chose là-dedans aussi qui nous rappelle la posture même de Tadao Tsugé par rapport au portrait qu'il fait, dans la mesure où est-ce que Tsugé, quand il utilise ce personnage-là pour raconter la vie de Van Gogh, il met d'une certaine façon aussi en scène le propre rapport qu'il a avec l'art du portrait en bande dessinée. Dans la mesure où est-ce qu'il est vraiment en train d'essayer de creuser certains éléments de la vie de Van Gogh en montrant à quel point les incidences humaines, parfois plus que les incidences artistiques, ont pu influencer sa vie puis le faire aller dans des directions particulières, ben, jusqu'à la dépression. Puis là encore, Jean-Michel, comme on parlait tantôt, on parlait des différents registres en fait d'expression qu'il y avait chez Tsugé. Puis je trouve que dans cette courte histoire-là, c'est vraiment là où c'est le plus impressionnant, parce qu'il va s'amuser un peu à dessiner à la Van Gogh, ou en tout cas à voler des lignes à Van Gogh, puis essayer de s'inscrire à travers ça. Puis là, on le voit vraiment beaucoup expérimenter avec la forme, puis avec où on voit parfois ces deux registres-là coexister à l'intérieur de la même case, dans la mesure où est-ce qu'il va avoir le Van Gogh dessiné par Tsugé, puis il va avoir le personnage de l'artiste dessiné par Tsugé, qui occupe le même espace, puis où justement, tranquillement, plus on avance, puis plus on va basculer dans une forme d'onirisme où le personnage, il rentre pas directement en dialogue avec Van Gogh, mais on est quand même pas loin de ça. Puis si on peut faire un dernier appel au cinéma, ça fait penser à Rive,
à Dreams,
de
Kurosawa,
avec Van Gogh, puis Scorsese qui fait Van Gogh, puis l'alter ego de Kurosawa qui va parler à Scorsese Van Gogh dans un rêve.
Oui, parce que c'est pratiquement prescient. Parce qu'il y a l'apparition à un certain point d'un double, en quelque sorte, qu'on est Goro.
Oui, oui, oui.
Wow, qui s'appelle le nom de la publication.
Oui.
C'est ça? C'est-tu Goro ou Garo?
Il me semble bien que c'est le Goro Magazine.
C'est Garo Magazine.
Ah, c'est Garo, ouais. OK.
Mais là, il parle à un personnage qui s'appelle Goro. Donc, pour nous, à cause des caractères, à cause de notre alphabet, ben la confusion existe.
Oui.
Fait qu'il y a... Avoir poussé cette confusion-là au maximum, ça a été vraiment agréable de voir l'artiste qui parle au périodique, qui le publie et qui lui dit « Regarde, je suis en train de faire des recherches par rapport à Van Gogh. » Puis, parce qu'on sait que Goro est un espèce de... Pardon.
Mais c'est le gars qui vient lui demander pourquoi il fait ce qu'il fait. Pourquoi il dessine, puis pourquoi il perd son temps avec le dessin et la peinture.
Là, c'est ça. C'est aussi un gros buveur, on sort, travaille pas, nanana.
C'est ça.
Fait que t'es l'élément perturbateur, le petit démon sur l'épaule, là, en quelque sorte. Puis Goro va le lire aussi.
Oui.
Va lire le livre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer avec l'artiste as a young man. Mais aussi, tu sais, formellement, il fait de la... Ça, c'est quand même un gros défi à relever. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement dans Van Gogh. Mm-hmm. Je trouve que c'est très, 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 très statique. C'est très figé dans le temps. Fait que c'est très compliqué de faire la bande dessinée avec du Van Gogh. Puis lui, il l'a fait.
Oui.
De vraiment correctement... je pense notamment à la page 15, là, pour les gens qui auraient le tombe sous la main. Un découpage qui fait que Van Gogh est mouvementé, a de l'action. C'est quand même assez...
C'est superbe, ça.
C'est vraiment, vraiment vraiment. Puis c'est ça, je...
Garde des planches comme ça, puis ça fait penser à ce qui se fait dans la BD contemporaine, là, seulement depuis, je sais pas, 15-20 ans, là. Puis ce qui fait déjà 168, là, c'est d'une maîtrise assez incroyable, parce qu'en plus, cette fameuse page 15, il change de style à peu près 4 fois en 6 cases.
Non, oui.
Puis c'est ça, c'est ça dans un rapport qui est très... C'est ça, expressionniste au dessin. Là. On est vraiment dans une espèce de recherche du contraste dans des superpositions de différents éléments, puis...
Mais ouais. Même, puis en guise de conclusion, je trouve que c'est très important de le souligner, ça. C'est extrêmement moderne. C'est ça qui, ouais. C'est toujours dans les grandes terreurs, là, quand on redécouvre des gens, puis qu'on se dit, ben, c'est juste de la volonté de John and Quarterly et de... Pardonnez-moi, je me rappelle plus.
Ah, celui qui a édité l'ouvrage. Oui, et traduit. Ryan Holmberg.
Exactement, c'est comme si ces deux... instances-là qui ont permis la redécouverte de ce gars-là, parce que si ce n'était pas le tour, mais ça serait un grand pan de l'histoire qui disparaît.
Ouais.
À la fois dans une espèce d'idée que, oui, la modernité en bande dessinée, elle est bien fun, puis elle est bien moderne, mais elle n'est pas si neuve que ça. Et aussi, moi, c'est le truc que tu as dit que je trouve qui est vraiment important, c'est qu'on vend énormément de bandes dessinées actuellement en parlant de journalisme BD.
Oui, ben oui, Joe Sacco. Là,
ben oui, c'est la manne, là, présentement. Là, dès que tu fais un mini-portrait social d'un lieu, un tantinet exotique, mais tout de suite, ben lui, on fête dans très peu de temps le 50e anniversaire. Là.
Oui, c'est ça, tout à fait. Puis en plus, pour puis moi, je finirai là-dessus pour ma part. Ce qui est très intéressant, puis peut-être qu'on n'a pas eu le temps d'explorer, par rapport à cette idée du portrait, puis à cette idée du portrait de la nouvelle génération, puis de la génération de l'après-guerre au Japon, c'est que l'œuvre de Tsugi vient tout de suite après les années 58, 59, 60, où il commence à voir au Japon ce qu'il appelait les gens de la tribu du soleil, là, une espèce de c'est un peu comme si on parlerait des hipsters aujourd'hui, là, c'est des espèces de jeunes gens qui sont pas le mot l'épithète à l'époque là, dont ils se revendiquaient, c'était d'être dry, donc qu'il y a rien qui est emprise sur eux, hein. Que ces contraintes sociales-là dont on parlait, qu'elles soient familiales, professionnelles, qu'elles aient pas justement d'accroche sur ces personnages, que eux soient toujours secs de tout ce qui pourrait les mouiller, hein, au niveau des contraintes. Puis ce qui est intéressant, c'est que justement Tsugi arrive à ce moment-là, arrive à s'intéresser à des personnages qui, justement, eux, osent se dire qu'ils veulent avancer ou qui ont un désir d'avancer dans leur vie sans ces contraintes-là ou en essayant de se détacher de ces choses-là. Puis il va présenter, évidemment, les écueils de cette condition-là, d'une certaine façon aussi les réussites, si on pense à la première histoire avec Van Gogh.
Ah oui.
Puis c'est ça, comment s'émanciper, de quoi s'émanciper, puis aussi de comment s'émanciper par rapport aux autres qui sont à côté de nous. Il y a énormément de... Il y a énormément de bully dans ce qu'on a lu de Tadao Tsugi. Beaucoup de personnages qui molestent d'autres personnages, qui profitent de pas nécessairement de leur rapport de supériorité, mais ou du moins qui essaient de créer un rapport de supériorité par rapport au protagoniste, qui est souvent une victime. Donc c'est ça, Tsugi vient démêler tout ça, puis ça en fait vraiment, moi, ce qui m'a le plus fasciné là-dedans, c'est à quel point il faisait un portrait extrêmement réaliste, mais extrêmement touchant des plus sales gueules là, du Japon d'après-guerre.
Merci énormément, Mathieu. C'est vraiment une très belle conclusion. Merci pour la découverte aussi.
Ça fait plaisir.
Et merci, chers auditeurs. On se revoit la semaine prochaine. On va l'écouter For Kicks de Metric. Et je te remercie encore parce que tu le mérites.
to eat, c'est un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi.